Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, monsieur Marguerite Caton, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Troisième volet de notre série consacrée aux droits LGBT+, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Lundi, nous évoquions l'Europe et le clivage Est-Ouest autour de ces questions LGBT. Hier, nous parlions de l'Afrique et de la répression d'État à l'égard des homosexuels. Aujourd'hui, on va s'intéresser au militantisme et au mode d'action. De New York à Copenhague, militants, militantes, fiers de l'être, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
The CBS News Public Opinion Survey indicates that sentiment is against permitting homosexual relationships between consenting adults without legal punishment.
The Stonewall pulled in.
Le bar Stonewall a attiré toute la diversité de la communauté gay. Ce qui était bien au Stonewall, c'est qu'on pouvait danser le slow tandis que dans la rue, on ne pouvait pas montrer notre affection.
L'officier de police qui est venu à notre rencontre nous a signifié notre arrestation lorsqu'on sortirait de ce lieu en donnant notre identité. Cette fois-ci, nous avons répondu que nous ne sortirions pas. C'est ça, nous ne sommes pas sortis.
Pour la première fois, on ne s'est pas laissé embarquer en prison. On ne s'est pas laissé intimider ni attraper. En fait, les gays ne se sont pas laissés faire et nous nous sommes défendus.
Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels.
Voilà, entendez à l'instant un extrait du film documentaire Stonewall Uprising de Kate Davis et David L. Bronner, sorti en 2010, mais aussi petite archive d'un reportage de l'ORTF de 1970. Dans quelques jours, justement, nous commémorerons les émeutes de Stonewall, une série de manifestations qui eurent lieu suite aux violences policières le 28 juin 1969 dans le bar new-yorkais de Stonewall, dans le quartier de Greenwich Village. En effet, ce haut lieu de la communauté LGBT avait été la cible d'une descente de policiers venus pour tabasser ses clients. Et cet événement allait provoquer l'ire d'une communauté qui décida de se rebeller contre ces violences policières récurrentes. Dès l'année suivante, plusieurs marches furent organisées aux États-Unis pour en marquer l'anniversaire, devenant les premières Gay Pride et posant ainsi les bases d'un militantisme LGBT. Retour sur les origines de ces mouvements militants LGBT aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors que représente Stonewall pour les militants LGBT aujourd'hui? Comment les modes d'action, les revendications ont-ils évolué en un demi-siècle et comment se sont-ils diffusés à travers le monde, avec quelle adaptation au contexte culturel, politique? Faut-il voir dans la multiplication des Gay Pride à travers le monde une certaine uniformisation du militantisme LGBT? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, ici avec nous à Paris, Constantinos Eleftheriadis, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anciennement chercheur en sociologie et études des genres à Sciences Po Paris et puis membre du Centre d'études des mouvements sociaux de l'EHESS. À nos côtés, quasiment en duplex de La Rochelle, Charlotte Thomas-Hébert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vous doctorante en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes vous membre du CESP, le Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Alors avant de revenir justement sur ces événements de 1969 qui évidemment ont été très très importants pour forger ce militantisme LGBT, d'abord un mot sur les actualités l'un et l'autre, parce que cette semaine, SOS Homophobie a publié les chiffres d'agressions physiques envers les personnes LGBT, avec 231 agressions physiques recensées. L'année 2018 enregistre un bond de 66% des agressions physiques LGBT-phobes par rapport à 2017. 2018 a été une année noire pour les personnes LGBT, voilà ce qu'on lit dans le rapport. Que vous inspire l'un et l'autre ces chiffres et cette recrudescence des violences? On va commencer par vous, Charlotte Thomas-Hébert.
Comment dire ça? Je peux plus parler du contexte américain que je connais mieux que le contexte français, juste parce que je reviens plus des États-Unis.
Cette recrudescence est aussi valable aux États-Unis?
Oui, bien sûr, depuis l'élection de Trump, les actes homophobes, lesbophobes, transphobes sont en grande augmentation. Ça s'accompagne du fait qu'il y a la communauté queer aux États-Unis de plus en plus visible. Donc ça, on peut dire que ça peut aller éventuellement de pair. Et que peut-être que les personnes sont plus susceptibles de rapporter les actes qui sont commis à leur encontre. Mais, Et puis de plus en plus, d'autant plus que le mouvement trans qui est en train d'apparaître sur la scène politique américaine commence aussi à recenser les actes transphobes qui sont, dont les chiffres sont assez horribles, surtout quand il s'agit de d'assassinats envers les femmes noires trans. Donc c'est voilà, ces informations sont désormais disponibles, donc du coup c'est difficile de les ignorer et de pas s'en horrifier.
Constantinos Eleftherianis.
À mon avis, cette augmentation représente aussi une prise de conscience grandissante de la part des gens qui subissent ces violences et d'une certaine dénaturalisation de la violence dans la mesure où on considère plus les violences physiques ou verbales ou les harcèlements qu'on subit dans le milieu professionnel par exemple comme naturels, comme allant de soi.
Oui, c'est d'ailleurs quelque chose peut-être qu'on voit à travers le chiffre de la recrudescence des signalements des agressions de lesbiennes qui ont bondi de 42% avec 360 actes répertoriés. Donc peut-être qu'effectivement, on a là aussi une forme de libération de la parole, je mets la formule entre guillemets, mais de ces femmes homosexuelles un peu dans le sillage des mouvements MeToo, des mouvements Balance ton porc. Il y a peut-être aussi cet effet-là. Un tout petit mot peut-être sur le plan de lutte, parce que fin novembre, la secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, avait présenté un plan de lutte contre les violences LGBT. Il y avait un volet éducatif pour les préventions, la sensibilisation à l'homophobie, mais il y avait aussi un volet répressif face aux violences, et puis il y avait aussi des mesures spécifiques pour l'outre-mer. Ce que vous inspire, Constantinos Eleftherianis, ce plan, est-ce qu'il vous semble à la hauteur des enjeux ?
Je pense que c'est un bon départ. En tout cas, c'est quelque chose qu'en fait, l'État doit intervenir à un certain moment pour essayer de contenir les violences, et surtout chez les jeunes à l'école. Vous savez, le harcèlement contre les garçons qui ne se voient pas comme garçons ou les filles qui ne se voient pas comme très filles. Il y a la question de la masculinité, de la féminité à l'école qui est en jeu. Et je pense que oui, effectivement, c'est des mesures. Il faut aller bien sûr au-delà. Mais je pense que c'est un bon départ, ouais.
Charlotte Thomas Hébert, on voit souvent les émeutes de Stonewall, dont j'ai parlé dans mon introduction, comme le point de départ des luttes LGBT+, pour leurs droits. Mais il faut peut-être replacer un peu les choses dans une histoire un peu longue. Tout n'a pas commencé à Stonewall il y a un demi-siècle. Ce n'est pas l'année zéro du militantisme LGBT, Charlotte Thomas Hébert.
Non, bien sûr, non, pas du tout. Enfin, c'est pas pour enlever des choses à Stonewall, hein. C'est pas pour susciter ça comme constituer un grand événement. Mais les organisations homophiles ou assimilés à nuit, enfin, les organisations LGBT existaient déjà avant Stonewall. Principalement à partir du milieu des années 50, c'était la Mattachine Society qui s'est formée, ainsi que, donc c'était plutôt des organisations d'homosexuels, enfin d'hommes, et ensuite les Daughters of Bilitis, qui était une organisation pour lesbiennes, et qui était, oui, donc avec des tendances, enfin une visée plus assimilationniste, hein, c'est-à-dire qui adoptait l'idée à l'époque d'être respectable dans l'espace public, en fait, pour demander à être accepté par l'Amérique majoritaire.
Et que représente aujourd'hui, Charlotte Thomas Hébert, Stonewall dans le militantisme LGBT+, à la fois du côté des États-Unis, que vous connaissez particulièrement, puis on verra aussi pour l'Europe. Quelle place dans l'imaginaire de ces mouvements LGBT?
C'est l'événement de départ, en fait, même si c'est réhistoricisé, parce qu'il y avait des émeutes en fait avant Stonewall. Seulement, elles n'ont jamais été célébrées de la même manière que les émeutes de 69 l'ont été. Ce qui fait que j'ai perdu ma pensée.
Sur l'imaginaire des mouvements LGBT, c'est pas grave, je vais passer la parole à Constantinos Eleftherianis. Même question, peut-être la réinscrire dans un mouvement plus global, historique. Évidemment, tout n'a pas commencé à Stonewall, mais qu'est-ce qui a commencé au fond à Stonewall? En quoi est-ce que cet événement constituerait-il une forme de rupture dans le mouvement?
Stonewall représente effectivement un mythe fondateur du mouvement LGBT contemporain global, dans la mesure où il nous permet de penser, en fait, et de prendre conscience de la répression que les communautés homosexuelles et transgenres ont subi aux années 60 et 70 et qui continuent à subir dans d'autres contextes également, et la lutte contre la répression. C'est ça, en fait, qui lie les communautés homosexuelles partout dans le monde. C'est la lutte contre la répression. La répression qui vient de l'État.
Et est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, c'est cet événement qui va produire la coagulation d'un mouvement international, transnational? Est-ce qu'on peut dire que le militantisme LGBT, sachant que je sais très bien en utilisant un singulier, c'est déjà problématique, mais est-ce qu'on peut dire que le militantisme LGBT global commence à ce moment-là?
Non, moi je suis d'accord avec Charlotte tout à l'heure. Il y a en effet des organisations, des groupes militants qui existent déjà.
Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'ils se mondialisent à ce moment-là d'une certaine manière ?
Ça crée quand même, ça crée des images médiatiques très fortes, et ça permet quand même une diffusion, comme vous avez bien montré en France, même de ce qui se passait à New York. D'une certaine façon, il y a une globalisation, mais et le mouvement LGBT a trouvé le Stonewall comme un point de départ, effectivement.
Cette globalisation, elle est parfaitement nette, Charlotte Thomas Hébert, quand on regarde la future Marche des Fiertés qui aura lieu à New York, la 50e Marche des Fiertés, ce sera le mois prochain, ça s'annonce déjà comme un événement absolument colossal et vraiment, pour le coup, mondial. On attend 3 millions de personnes dans la ville pour commémorer les 50 ans de ces émeutes de Stonewall. On sera quand même très très loin de ces premiers rassemblements, Charlotte Thomas Hébert.
Oui, bien sûr, surtout que les chiffres qui sont avancés pour la première marche qui a eu lieu en 1970, c'était 2000 personnes. Enfin, tu vois, je vois que c'est plutôt 5000. Donc, passer de 5000 personnes à plus de 3 millions, ça fait quand même un choc. Enfin, c'est pas une différence.
Donc, on est bien dans un mouvement global aujourd'hui, d'une certaine manière.
Oui, d'autant qu'en plus, New York sera la ville de la World Pride. En plus que la marche de fierté locale de New York, enfin, surtout de Manhattan, parce que c'est pas. Il y a plein de marches de fierté à New York, si vous voulez. Il y a aussi chaque arrondissement à la sienne, chaque communauté à la sienne. Mais là, ce sera vraiment la marche du monde entier, en fait, qui va être censée se passer, enfin, venir à New York pour célébrer l'événement.
Certaines voix, Charlotte Thomas Hébert, s'élèvent pour dénoncer ce qu'est devenu justement cette marche des fiertés aux États-Unis, considérant peut-être qu'elles ont été détournées de leurs ambitions premières. Est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que l'institutionnalisation, voire même la folklorisation, j'utilise le terme à dessein, a produit une forme de dévoiement de cet événement ?
Oui. Enfin, vous dites folklorisation. Moi, je penserais à patrimonialisation. Certains diraient que on est passé, en fait, d'une manifestation à une parade. Donc, il s'agit plus de s'emparer de la rue, mais de défiler, en face, enfin, de se faire voir ou de profiter, en fait, de sa présence visuelle dans l'espace public. Mais les changements sont édifiant quand on voit les photos, en fait, entre la première marche qui s'est passée, alors quand même protégée par la police avec un permis, mais où les gens prenaient la rue, à maintenant, si vous voyez les images de l'année dernière, en fait, l'espace public est complètement barricadé, la marche dure 9 heures, plus de 9 heures, vous pouvez pas vous y joindre à moins de faire partie d'un groupe, il y a les chars partout, il y a plus de chars promotionnels quasiment que de marcheurs privés. Donc ça en est vraiment passé, de la reconnaissance, en fait, d'un mouvement protestataire à un mouvement commodifié ou mercantile, mais on voit en fait l'effet du
marchandisé d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Et on va voir justement comment s'est fait ce glissement, mais encore un mot et puis je vous passe la parole, Constantinos Eleftheriadis. À l'époque quand même de cette marche originelle, l'objectif c'était de défendre les droits d'individus particulièrement exposés à la violence. Finalement, il s'agissait de s'unir pour protéger des personnes particulièrement vulnérables. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que précisément les plus vulnérables ne sont pas un peu exclus, marginalisés par ces événements ? Je relaie le sentiment d'un certain nombre de militants, de collectifs, d'associations qui ont cette position-là. Charlotte Thomas Hébert.
Oui, et donc, excusez-moi, c'est parce qu'aussi une critique des militants plus radicaux actuels, en fait, c'est que la marche est il y a une surprésence de la police à l'extérieur de la marche pour, bien sûr, sécuriser. New York est devenue une ville très sécuritaire, surtout depuis 2001. Et en plus, les groupes radicaux critiquent la présence de la police, en fait, des syndicats de police dans la marche en elle-même, en disant que c'est pas normal qu'une institution qui nous oppresse au quotidien puissent marcher au même titre que nous.
Et puis c'est oublier aussi, bien sûr, les violences originelles de Stonewall, d'une certaine manière. Constantinos Eleftheriadis, sur cette question de l'exclusion, peut-être, d'individus particulièrement vulnérables de cette forme-là de militantisme. C'est vrai que ce qu'on remarque avec ces marches des fiertés, c'est qu'elles sont devenues des événements éminemment festifs, et d'une certaine manière, tant mieux, moi je suis pas ni pour ni contre, bien au contraire, mais il y a deux choses à comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est devenu festif, pourquoi cet espace-temps qui doit être un espace d'affirmation et de revendication de droits, se fait dans un contexte un peu d'euphorie générale, avec des corps qui s'exhibent sur fond de musique électro, pour faire un peu caricatural. Et ce caractère festif, précisément, n'a-t-il pas pour effet de marginaliser ceux qui, bah voilà, se retrouveraient pas forcément dans ce type de démonstration particulièrement ostentatoire, Constantinos, pardon, Eleftheriadis?
À mon avis, il n'y a pas une... La fête était toujours présente, en fait. Même si on va, si on regarde...
Sur la première marche de 70.
Même si on regarde à côté du Stonewall, le Stonewall, c'était d'abord une meute, hein, mais à l'intérieur du bar, les gens faisaient la fête.
Hein. C'est vrai.
Donc la fête, elle fait toujours partie... Justement, je vous dis ça parce qu'on a organisé un colloque sur fête et militantisme LGBTQ à l'Université du Havre il y a 2 mois, et on a abordé cette problématique. Donc la fête est toujours présente. L'exclusion, bien sûr, mais il y a différentes formes d'exclusion, mais en même temps, à cette exclusion, il y a aussi de nouvelles formes de contestation. Il y a aussi, on a vu l'année dernière à la Gay Pride de Paris, où un cortège de LGBT racisés, ils ont pris la marche en avant et ils ont imposé leur présence au sein de la Gay Pride. Je pense que la Gay Pride constitue malgré tout, malgré la commercialisation, malgré la patrimonialisation, l'événement politique le plus important en termes de chiffres, en tout cas en termes de participants dans toute l'Europe occidentale et j'imagine aux États-Unis également, et son caractère politique lui est indéniable.
Charlotte Thomas Hébert, ces critiques que je formulais, en réalité, elles s'expriment quasiment dès le début. L'ai lu sous votre plume, dès le début des années 70, on va avoir des collectifs, des mouvements qui vont s'opposer à ce caractère particulièrement festif, de l'événement. Par exemple, vous racontez que le mouvement LFL, le Lesbian Feminist Liberation, reproche, par exemple, la présence de chars et rejette d'une certaine manière cette mise en spectacle un peu de l'événement.
Oui. En envoyant une lettre ouverte à leurs adhérentes. Et c'était l'année aussi où Sylvia Rivera, qui maintenant est constituée comme celle qui a débuté les émeutes de Stonewall, celle qui a jeté un verre ou une bouteille contre les forces de l'ordre dans le bar, qui était une femme latina qui était aussi une travestie du sexe. Donc c'est important d'avoir ce symbole-là pour débuter la communauté, sachant à quel point elle a pu être... désexualisée par la suite. Et donc, oui, dès 73, Sylvia Rivera s'empare de la scène au moment du rallye après la marche pour s'opposer justement à la dépolitisation de l'événement et aussi pour revendiquer sa place en tant que personne trans parce qu'elle s'opposait à ce moment-là à des tenses parmi les groupes lesbiens qui étaient un peu transphobes, qui étaient plutôt très transphobes d'ailleurs. Donc, déjà, il y avait le conflit dès la troisième année, en fait, si vous voulez.
Si on essaie de comprendre comment s'est institutionnalisé cet événement, ce que vous racontez, c'est que les premières années, il est organisé par le Christopher Street Liberation Day Committee. Et puis ensuite, à partir de 1984, il va être organisé par une autre association qui s'appelle HOPE, Heritage of Pride. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je crois que c'est très important pour comprendre justement comment a évolué cet événement et au fond, le militantisme de façon générale aux États-Unis, dans quel contexte se fait le passage de relais et quels sont les tensions politiques, vous parliez de politique à l'instant, qu'on retrouve derrière à l'époque, qui sont très présentes, Charlotte Thomas Hébert.
Oui, alors le comité qui organisait la marche à ses débuts, donc l'acronyme forme CISLDIC en anglais, il y a eu un scandale en 84 parce que la personne qui était en charge de l'organisation a détourné des fonds. Et quand le scandale a surgi dans la presse 8 ou 10 semaines avant l'événement, le bureau en fait s'est complètement dissous. Et la marche de 84 s'est organisée dans des conditions assez rocambolesques où il a fallu qu'il vole de l'électricité, qu'il fasse la marche avec des haut-parleurs, etc. Et donc ensuite, les personnes qui ont organisé à la dernière minute la marche de 84 se sont constituées en HOP ou HOP et se sont tout de suite constituées en tant que non-profit qui correspondrait à une ONG en France qui permet en fait d'être une structure à but non lucratif qui permet de récolter des fonds et qui permet en fait c'est cette structure là qui correspond aussi au code de l'impôt aux États-Unis qui permet en fait enfin qui amène l'institutionnalisation des organisations puis des mouvements sociaux aux États-Unis.
Donc il va y avoir avec cette nouvelle association une forme de professionnalisation de l'événement, c'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, mais c'est ce qui accompagne n'importe quel mouvement social aux États-Unis, en France, à cette époque-là, en fait. On peut faire carrière de l'activisme, ce qui est nouveau.
Oui, on fait carrière de l'activisme. Et par ailleurs, effectivement, ce qui va beaucoup changer aussi, c'est les, les, les niveaux et les modalités de financement. Vous dites le budget 1983, j'ai lu ça sous votre plume, budget 1983, 26 000 dollars, budget 2018, plus de 5 millions de dollars.
Alors, non, ça c'est l'argent qu'ils ont récolté.
Ils ont récolté, d'accord.
C'est la même chose. Ils ont récolté plus de 5 millions de dollars en 2018, mais les chiffres que j'ai vus pour la marge de 2016, par exemple, a coûté 3,4 millions de dollars.
Et cette association Hope, parfois, d'aucuns considèrent, peut-être des militants radicaux, comme je reprends la formule que vous disiez tout à l'heure, disent que les totalement coupés au fond des milieux militants LGBT, c'est le cas.
Oui, il n'y a pas de représentants en fait des organisations LGBT de New York, parce que c'est une organisation de New York. Hein, je relocalise, c'est toujours important pour parler des États-Unis de relocaliser. Donc, HOP n'invite pas dans ses réunions de préparation les représentants d'associations LGBT locales, par exemple. Ils font une ou deux réunions ouvertes par an, mais c'est pas, ils n'ont pas, si vous voulez, le lien avec la communauté, en fait. Ils sont plus en lien avec la mairie, la police qui décide de la route et leur donneur.
Constantinos Eleftheriadis, sur cette professionnalisation, ce mouvement de professionnalisation de cet événement, effectivement, rappelons-le, new-yorkais en particulier. Après, il s'est diffusé, on y reviendra, mais quand même.
Pour New York, oui, je ne sais pas exactement, mais on observe justement cette professionnalisation en Europe occidentale également, voire à Europe de l'Est également, où il y a en Europe occidentale, il y a un fort investissement de l'État, souvent, ou des collectivités territoriales à l'organisation des Gay Pride, pour rappeler aussi que la Gay Pride constitue un événement majeur touristique également. Je vous rappelle par exemple la Gay Pride de Madrid ou même de Paris, rassemble plus de énormément de gens qui viennent passer aussi leurs vacances, etc. Et puis il y a effectivement une sorte de professionnalisation des ONG qui sont derrière l'organisation de ces événements et qui maintenant on parle des militants qui sont salariés également, qui ont un salaire, ce qui leur permet de vivre. Je pense que l'exemple le plus concret de tout ça, c'est ILGA Europe, qui est une ONG basée à Bruxelles et qui réussit à avoir des financements par la Commission européenne ou par plusieurs États européens du Nord. Et il y a des gens qui sont professionnels, qui font ça comme leur profession. Ouais.
On va parler dans un instant, Constantinos Eleftheriadis, de la question du mouvement queer, voir comment il a transformé justement ce militantisme. Mais pour poursuivre un tout petit peu, Charlotte Thomas-Hébert, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de dépolitisation de l'événement. Mais au fond, est-ce qu'on pourrait pas poser la question dans l'autre sens? C'est-à-dire, on comprend très bien qu'en se professionnalisant, cet événement est devenu d'abord un enjeu, on l'a compris, économique colossal, que par ailleurs, il s'organise aujourd'hui main dans la main avec les autorités locales. Est-ce que justement, précisément, il n'y a pas eu une politisation de l'événement en ce sens que, au fond, les membres de l'association HOP seraient peut-être plus ouvertement affiliés, par exemple, au hasard, au Parti démocrate, dans le cadre de la ville de New York, Charlotte Thomas-Hébert?
Je ne suis pas certaine. Personne pourrait être officiellement... Je ne pense pas que l'organisation puisse s'affilier officiellement au Parti démocrate, même si j'imagine que, titre privé, les membres doivent plutôt pencher vers les démocrates comme une grande partie de la communauté. Même s'il y a aussi une grande tendance républicaine conservatrice dans le milieu LGBT aux États-Unis. Mais je pense que c'est plus... pour élargir un peu plus, du coup, désolée.
Je vous en prie, allez-y.
Le côté États-Unis en son ensemble. Quand je pense aux grandes organisations comme le Human Rights Campaign HRC, qui est l'organisation principale, en fait, qui permet de mener les luttes à l'échelle nationale, qui permet, en fait, ils ont les fonds financiers, ils sont complètement institutionnalisés, et ils ont les liens, en fait, ils savent à qui s'adresser pour lutter contre, lutter pour les droits LGBT. Ces organisations-là permettent en fait d'avancer une grande visibilité politique, et c'est ce qui a permis aussi l'avancée de tous les droits. C'est quand même, quand on repense qu'il y a 50 ans, aller dans un bar, enfin c'était en 66 plutôt, mais aller dans un bar et être ouvertement homosexuel et demander un verre d'alcool était interdit. C'est peut-être, je veux dire, la différence entre maintenant et l'époque est quand même extraordinaire. Donc je critique la critique militante, mais il faut reconnaître quand même que le mouvement a quand même connu énormément de succès.
Bien sûr. Constantinos Eleftheriadis, le terme queer signifie littéralement étrange, bizarre. La théorie queer, développée notamment par la philosophe Judith Butler, vise à sortir un peu des binarismes un peu enfermants, homme, femme, homosexualité, hétérosexualité. Pour le mouvement queer, la sexualité, le genre ne sont pas exclusivement déterminés par le sexe biologique. Le terme queer, il s'est répandu d'abord aux États-Unis, ensuite il s'est diffusé beaucoup en Europe dans les années 90, on y reviendra peut-être, avec cette idée de dépassement des identités de sexe et de genre. Quelle place, Constantinos Eleftheriadis, les événements de Stonewall ont-ils pour les militants queer?
Alors, ça serait un peu anachronique d'utiliser le terme queer quand on parle de Stonewall. Bien sûr, c'est un terme qui a été utilisé dans le jargon et par plusieurs personnes, mais en tant que mouvement, ou plutôt si vous voulez, en tant que théorie qui rentre dans l'espace académique et qui s'institutionnalise, c'est plutôt à la fin des années 80. Donc, c'est à partir de la publication de certains travaux comme Gender Trouble, Trouble dans le genre de Judith Butler, ou d'autres encore, Lev Kossovsky, Sedgwick, etc., etc., où on voit quand même c'est un courant philosophique presque, qui, pas seulement, je vais faire une petite rectification, pas seulement nous dit que les genres et la sexualité sont pas déterminés par les sexes, mais c'est aussi que les sexes, lui-même, il est déterminé par les genres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une tabula rasa naturelle sur laquelle on inscrit les genres et les comportements et les attentes sociales, mais même le corps, il est produit par la société et dans la société. Et ça, c'est une rupture radicale avec les mouvements précédents, même au mouvement de libération homosexuelle des années 70, qui considérait quand même les corps comme une entité biologique.
Vous avez raison de repréciser tout ça. Mais alors, justement, je repose la question, puisque précisément ce courant philosophique et que d'une certaine manière, le militantisme qu'il va y avoir derrière est postérieur à ces événements, comment est-ce qu'on se le réapproprie? Comment est-ce qu'on effectue peut-être une relecture, justement, de ce mouvement-là et comment on l'inscrit dans ce courant?
Effectivement, son caractère plutôt, en fait, les liens qui se font entre le mouvement queer actuel et Stonewall, ça fait avoir avec plutôt la lutte contre la répression de l'État. On voit ça actuellement avec plusieurs mouvements qui se disent queer, trans, queer racisé, etc. Où un objectif principal, c'est justement d'essayer de lutter contre la répression qui subissent par l'État et plutôt aussi contre la violence intersectionnelle entre la race, la sexualité et les genres, par exemple, ou même la classe sociale. Donc ça, c'est des questions qui ont été posées à Stonewall également, mais d'une façon moins systématique, si vous voulez. La systématisation de ces questions émerge plutôt à partir des années 90, si je me permets.
Mais pour être très très pratique, et puis je vous passe la parole, Charlotte Thomas Hébert, quand cette théorie queer se diffuse, se démocratise, il y a déjà de nombreuses associations gays, lesbiennes, transgenres. Comment est-ce que justement ce mouvement queer va trouver sa place dans le paysage militant LGBT? Est-ce qu'il va s'arrimer sur un certain nombre de mouvements justement pour essayer d'exister? Est-ce qu'il va inventer son propre espace militant pour se faire une nouvelle place? Enfin, comment ça se passe?
En fait, ça c'est une question intéressante parce que le mouvement queer, une des spécificités du mouvement queer, en tout cas le mouvement queer de l'Europe du Nord que moi j'ai étudié, c'est le fait qu'il s'inscrit pas seulement dans une tradition du mouvement LGBT mais un peu plus radicale, mais il essaye également d'apporter un regard de genre, de sexualité, de féminisme aussi, parce que c'est un mouvement féministe également, à l'intérieur des mouvements anarchistes, d'extrême gauche, des squatteurs, d'alterglobalisation. Donc, le queer, il fait partie aussi d'un autre monde des mouvements sociaux, qui n'est pas directement lié au genre et à la sexualité, mais il a sa place aussi. C'est pour ça que, moi, dans mon livre, j'analyse justement comment les militants queer prennent les squats comme un terrain dans lequel ils peuvent expérimenter.
Il y a une chose que j'entends dans votre propos. Vous avez dit à propos de ce mouvement queer, vous parlez de mouvement anarchiste, d'extrême gauche. Tout à l'heure, quand on échangeait avec Charlotte Thomas Hébert, elle nous rappelait qu'il y a dans les mouvements LGBT des personnes plutôt affiliées, disons, au camp conservateur. Faut-il comprendre que le mouvement queer, lui, est plus facilement positionnable, pardonnez-moi le néologisme, et que oui, ce mouvement queer est clairement à gauche, contrairement à d'autres militantismes qui ne seraient pas forcément aussi clairement positionnés?
Oui, tout à fait. En tout cas, à une gauche critique, à une gauche alternative, à une gauche des mouvements sociaux, bien sûr.
Charlotte Thomas Hébert,
oui,
sur ce mouvement queer et sur la manière dont il transforme le militantisme LGBT tel qu'il existait à ce moment-là.
À ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 80.
Oui, c'est ça, dans les années 80.
Oui, bah, c'est lié aussi avec les liens qu'il y avait entre le monde académique à l'époque et le monde militant aux États-Unis, qui était bien plus fort que ceux qui existent maintenant. Et surtout, ça a lié à la création d'ACT UP New York en 1987, qui a pu en fait constituer un renouvellement de la militance LGBT dans une tradition plus entre guillemets libérationniste, où les militants revendiquaient leurs droits à la différence, le rejet des normes hétérosexuelles en fait, et l'affirmation des personnes en tant que dissidents sexuels, enfin le droit d'être non-conformiste dans l'espace public, et aussi le droit d'exister tout simplement et de survivre, enfin plus que de survivre, d'exister.
Ouais, vous parlez du monde académique, Charlotte Thomas-Hébert. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, les universités sont encore des lieux extrêmement importants pour la circulation des théories autour des questions de genre. Les gender studies, ça vient évidemment des États-Unis. Dès les années 50, 60, des universitaires vont réfléchir et mettre en place des études sur les rapports de genre. Et peut-être qu'on peut dire aussi, mais je voudrais vous entendre là-dessus, que la participation assez directe, physique, des universitaires dans ce militantisme LGBT+, c'est peut-être l'une des spécificités justement de ce militantisme, Charlotte Thomas-Hébert.
Oui, à l'époque, puis moi je le vois entre guillemets en réunion quand je fais du terrain, dans la salle, les militants, il y a beaucoup de personnes qui viennent du monde académique. Ils et elles sont présentes encore, même s'ils ne participent, même si ce ne sont pas forcément eux qui font avancer la théorie ou du moins qui font avancer, enfin qui crée la théorie. Peut-être que c'est pas, je m'exprime mal, mais moi il me semble pour l'instant que plutôt les militants entre guillemets du bas qui sont en train de faire avancer les choses, et surtout dans la nouvelle génération qui a accès, enfin celle qui va à l'université, parce qu'aux États-Unis tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'université vu l'endettement que cela crée, et puis aussi le fait qu'il est difficile d'y entrer.
Attendez, ça c'est important. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le militantisme LGBT plus aux États-Unis est peut-être en train de se repenser justement par la base, alors même que pendant longtemps, les choses se faisaient plutôt par le haut, c'est-à-dire par des professeurs, par des universitaires, c'est ça que je dois comprendre ?
Je ne pense pas que c'était par le haut avant, je pense que c'était plutôt justement queer, donc pas binaire, et qu'il y avait une relation en fait, une symbiose plus entre militantisme, enfin moins de séparation entre militantisme, d'accord, si vous voulez, et monde académique. Que maintenant ça viendrait plus de la base, surtout parce que c'est la génération des personnes trans, queer, racisées, enfin de couleur, qui accèdent, et sûrement grâce, enfin on pourrait penser ça à travers les réseaux sociaux, en fait, le fait que grâce à Twitter, à Facebook, les chaînes sur YouTube ou les Instagram, en fait, ça permet d'avoir une visibilité et de créer une communauté visible, justement, à des personnes qui, en général, sont cachées de l'espace public. Parce que accéder à l'espace public est difficile, ouais, et puis ça peut être mortel, et c'est très dangereux, et ça peut être des fois mortel.
Constantinos Eleftherianis.
Sur cette question
justement, peut-être cette articulation, j'allais dire, alors je caricature une fois encore, pardonnez-moi, mais de l'articulation entre le militantisme académique quasiment et le militantisme peut-être plus de la base. Je prends des précautions, mais vous entendez ce que...
Ici, il faudrait, je pense, faire une distinction.
Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce qu'effectivement, on sent que la base, là, est en train peut-être de reprendre la main, d'une certaine manière, et de repenser différemment les modes d'action, les répertoires d'action, etc.
Moi, je vois pas une nouveauté, pour être honnête. Hein. Mais il faut faire une distinction. Visiblement, en fait, la situation aux États-Unis, la situation académique est très différente parce que les universités américaines, souvent, sont des terrains dans lesquels des théories critiques peuvent circuler beaucoup plus librement par rapport à l'espace universitaire européen, où on voit quand même plusieurs réticences dans le département des sciences sociales ou de d'autres pour inclure justement les questions de genre et de sexualité. Et le militantisme aux États-Unis, il est souvent académique aussi, mais on voit pas ça en Europe en tout cas. Ça veut pas dire que dans les mouvements queer actuels ou dans les mouvements féministes même, il n'y a pas d'universitaires qui y participent, bien sûr. Mais ça s'est fait plutôt, à mon avis, dans un dialogue, dans un échange et dans une revitalisation des idées. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Constantinos Eleftheriadis, comment la théorie queer est passée des États-Unis à l'Europe ? Je crois que ça s'est fait d'abord du côté de l'Europe du Nord. Peut-être que d'ailleurs il va falloir expliquer pourquoi. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. Expliquez-nous comment ça arrive, comment ça s'exporte du côté de l'Europe.
Alors, ça, c'est très compliqué et je dois synthétiser très vite. Donc,
vous avez un peu de temps quand même, hein, je ne vous presse pas, il faut qu'on comprenne.
Parce qu'encore une fois, ici, l'Europe n'est pas un espace unifié, ça dépend beaucoup des traditions académiques nationales. En France, par exemple, la théorie queer émerge, arrive un peu plus tard par rapport aux autres pays du Nord, comme en Suède ou au Danemark, où quand même il y a des échanges physiques, hein, c'est-à-dire il y a des universitaires qui voyagent aux États-Unis, qui amènent leurs idées. En France, la question émerge plutôt avec deux tendances, avec celle de Didier Ribon d'un côté et de Saint Boursier de l'autre côté. Et en Italie également, on a il y a pas mal de dialogues qui s'effacent aussi entre certaines universitaires italo-américaines et italiens. Voilà, donc c'est un espace assez bizarre, un peu queer aussi, l'Europe également.
L'Europe est un espace queer.
Ouais, bah, c'est ce que j'ai écrit dans mes articles. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais voilà.
Et est-ce que lorsqu'il s'importe en Europe, est-ce que les formes du militantisme LGBT+ varient par rapport à ce qu'on va trouver du côté des États-Unis ? Est-ce qu'il va y avoir des formes d'adaptation au contexte culturel, politique, historique, européen ?
Ouais, bien sûr, il y a de fortes différences nationales. Vous regardez par exemple le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, etc. Mais ce qui se passe, c'est aussi le fait qu'il y a une certaine européanisation du mouvement et des revendications LGBT, une européanisation qui s'efface au niveau institutionnel. Je vous rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, elle fait pas mal de décisions juridiques qui permettent par la suite aux États d'adopter des législations favorables aux couples de même sexe. Je parle plutôt du cas de la Grèce que je connais mieux, mais aussi de l'Italie. Mais aussi l'Union européenne, c'est un acteur fondamental. Il peut pas obliger les États à adopter des mesures législatives favorables, mais il crée ce qu'on appelle le soft law, c'est-à-dire du droit mou, pour convaincre justement les États à adopter des législations favorables. Donc il y a aussi une européanisation du haut et du bas. En même temps. Et avec la traversée des frontières, avec les festivals, avec les Gay Pride, etc., il y a une circulation du militantisme en Europe très importante, qui est, par exemple, on voit ça entre l'Allemagne et la Pologne, où il y a pas mal de militants, de militantes qui trouvent leur place à Berlin et après ils reviennent en Pologne pour justement voir ça, etc.
Et est-ce qu'on voit la même chose au niveau mondial ? Vous parlez d'une européanisation, est-ce que de la même manière, on a une transnationalisation, une internationalisation aussi de ce mouvement-là ?
Tout à fait. Et encore une fois, moi je les vois comme une transnationalisation du haut et du bas. Du haut dans la mesure où il y a même les Nations Unies ou les comités des droits humains des Nations Unies à Genève, il fait pas mal de résolutions sur la décriminalisation de l'homosexualité dans le monde. Ça, c'est quand même un grand enjeu actuellement dans les Nations Unies qui est débattu et il y a plusieurs États qui militent pour. Et de la même façon, il y a d'autres États qui militent contre. Donc, c'est-à-dire, il y a une transnationalisation des revendications homosexuelles et du mouvement LGBT, mais à la fois, elle est accompagnée par une transnationalisation de l'homophobie politique. On voit ça par plusieurs États maintenant, comme la Russie, par exemple.
Mais est-ce qu'on peut parler d'une transnationalisation du mouvement queer en particulier? Parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est plutôt quelque chose qui relève, en tout cas, certains courants de l'anarchisme. L'anarchisme, ça fait pas forcément bon ménage avec l'institutionnalisation, avec le rapport à l'État, avec la hiérarchie, et du coup, on peut peut-être voir apparaître là une forme de paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on rejette toute forme d'institutionnalisation, de formalisation des organisations, et puis de l'autre, on est en capacité quand même de former un courant transnational. On voit un paradoxe là.
Tout à fait, mais il faut dire ici que ce qui est important, c'est que le mouvement queer n'est pas nécessairement, il faut pas le voir dans une évolution linéaire, c'est-à-dire d'abord on avait la libération homosexuelle, puis on a le mouvement LGBT, puis on a le mouvement queer. Le mouvement queer, il coexiste avec toutes ces formes, et ça, c'est assez visible dans les pays non occidentaux, comme en Tunisie par exemple, où la semaine, il y a un mois, je pense qu'il y avait le deuxième festival queer Moujoudine, je pense qu'ils appellent, excusez-moi si je prononce mal, ou même à Istanbul, en Turquie, où on a pas mal de militants et des militantes qui se disent queer également. Ou même en Corée du Sud, que j'observe un peu de près, où les gens, ils vont appeler leurs événements queer. Ça pourrait être aussi également une façon de ne pas se dire LGBT. Hein. Ça, il faut être un peu conscient de ça, que le mot queer parce que c'est un mot anglais, dans d'autres langues, ça représente pas grand-chose. Donc, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est, la signification du mot queer. Donc, souvent, quelques militants, justement, font de contourner le regard. Ils utilisent le mot queer pour se protéger. C'est une façon aussi de se protéger contre l'LGBT qui devient quand même un marqueur assez global.
Charlotte, Thomas, Hébert, avant de prendre la direction de l'Asie, peut-être une dernière réaction.
Oui, excusez-moi, je pensais juste en fait quand Constantinos parlait peut-être de la tension en fait. Il y a toujours la tension entre radicaux et assimilationnistes, mais le fait en fait que le parapluie, le terme parapluie, excusez-moi de l'expression, traduction de l'expression en anglais, du LGBTQ qui en fait plus qui s'étend de plus en plus. Je l'ai tel que je l'ai moi dans ma dernière version, c'est LGBTQ. IAA, TS, NBG, NC+, en fait, qui est là pour montrer qu'il y a une diversification, enfin, il y a une grande expansion des identités de genre ou de sexualité. Donc, c'est ce qui est en train de se passer, qui pose des problèmes, mais qui est aussi fascinant et très intéressant.
Évidemment.
Et qui, du coup, permet aussi, c'est peut-être un des paradoxes, mais quand je pense aux groupes qui luttent contre, des groupes radicaux aux États-Unis, ils vont utiliser, eux, le terme queer, justement, pour pouvoir rassembler le plus de monde possible, même si les personnes qui se sentent représentées plus par une lettre spécifique, en fait, sont en colère de qu'on n'utilise pas celle qui les représente.
Donc, allez, on va prendre la direction, si vous le voulez bien, du Japon. Le 30 avril dernier, le Japon commémorait l'entrée dans une nouvelle ère nommée Reiwa. On en a beaucoup parlé avec l'arrivée du nouvel empereur, Naruhito. Et dans le même temps, était organisée, eh bien, la 25e marche des fiertés de Tokyo. Voilà, des milliers de personnes ont participé à cette 25e marche des fiertés à Tokyo. On va retrouver Karmi Shirakawa, chercheur, ethnologue expatrié au Japon depuis une trentaine d'années, un spécialiste de l'homosexualité japonaise qui avait écrit notamment un ouvrage, Les chrysanthèmes roses, homosexualité masculine dans le Japon contemporain, paru aux belles lettres. La première marche des fiertés, Karmi Shirakawa, avait été organisée en 1969, on en a beaucoup parlé, à la suite 70, pardon, des émeutes de Stonewall, considérées comme le début un peu de cette lutte pour l'égalité des droits pour toutes les orientations sexuelles, même si évidemment il y avait bien des choses avant cela. Mais depuis, ça s'est diffusé un petit peu partout, dès 72 en Europe, et puis la première en Asie, elle se déroule justement à Tokyo en 1994. D'autres pays de la région vont suivre ensuite, la Corée du Sud, la Thaïlande, mais le fait que le Japon ait été le premier pays à organiser une marche des fiertés en Asie, est-ce qu'on peut le voir comme le signe que l'archipel a au fond particulièrement bien intégré les modalités d'action des militants occidentaux, Karmi Shirakawa ?
Il y a quand même une fracture sociale entre urbains, gays ruraux, je dirais. Bon, c'est un peu rapide comme division, mais ça correspond un peu à ça. Et justement, les gays ruraux n'ont jamais vraiment été étudiés, et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, il y a une dizaine d'années, et je me suis rendu compte que ils étaient à 30 lieues de tout cela, en fait. Ils ne savaient même pas que ça existait, une marche des fiertés, ils ne fréquentaient absolument pas les bars gays de leur ville voisine, ou bien même de Tokyo, et ils se sentaient, je vais employer un mot assez fort, mais c'est le mot que j'ai reçu dans les interviews. Ils se sentaient un peu trahis et non compris en tout cas par cette minorité qui a été influencée par l'Occident ou bien même qui a fait des études en Occident et qui les obligeait en quelque sorte à sortir du placard alors qu'ils n'en avaient absolument pas envie.
Est-ce que je dois comprendre que l'homosexualité rurale, puisque c'est la formule que vous utilisez, est aujourd'hui totalement marginale et que d'une certaine manière elle n'a pas de représentation, qu'il n'existe pas au fond de militantisme homosexuel LGBT dans le monde rural ?
Oui, on peut dire ça, oui. Il faut dire qu'il n'y en a pas, d'accord, mais c'est parce que le besoin n'en est pas ressenti d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'oppression n'est pas ressentie de manière aussi vive, et le fait de ne pas dévoiler son homosexualité n'est pas souvent relié avec le malheur, ou avec un manque de bonheur, ou avec une vie atroce. Donc ça, il faut bien savoir que c'est, à mon avis, très différent de ce qui se passe en Occident.
Et alors, quand on regarde, Karmi Shirakawa, ce qu'il se passe dans les villes, parce que là, pour le coup, le militantisme LGBT, il existe bel et bien au Japon, est-ce qu'on y voit d'abord des différences notables par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis ou en Europe, et peut-être en particulier sur les revendications ? qu'est-ce qu'on demande et est-ce que c'est finalement la même chose, peu ou prou, que les revendications qu'on va retrouver aux États-Unis ou en Europe? Ou est-ce que c'est très différent?
Elles sont assez proches, je dirais. Les revendications sont assez proches. Donc, il y a une reconnaissance, déjà, qu'on existe, reconnaître qu'on existe. Puis, il y a une, c'est plus récent, un essai de reconnaissance du mariage, par exemple. Et puis aussi, il faut dire que les médias ne jouent absolument pas leur rôle au Japon par rapport aux minorités sexuelles, depuis, je dirais, 5 ans peut-être. On commence à voir le terme LGBT apparaît dans les journaux. On essaie de remettre une image positive et malheureusement, il n'y a pas de rôle modèle, presque pas.
Vous parliez à l'instant, Karmi Shirakawa, de la question du mariage, qui est l'une des revendications des militants LGBT au Japon. Il se trouve qu'au Japon, il n'y a pas de mariage pour tous. Comment expliquer ce retard du Japon sur l'union civile, sur le mariage pour tous?
Est-ce que c'est un retard? C'est une différence.
C'est une différence, je vous l'accorde.
Je ne suis pas sûr que ce soit un retard parce que...
Donc on n'y viendra pas, c'est mariage, ça que vous sous-entendez, on n'y viendra pas?
Oh, peut-être très très tard, peut-être. Je ne suis pas certain qu'on y vienne, mais si on y vient, ce sera très tard, c'est pas demain. Le mariage dans la société japonaise est extrêmement important. Encore, et là, il y a des gens qui luttent contre ça, mais indépendamment de leur orientation sexuelle, il y a des femmes qui revendiquent le droit de ne pas se marier, surtout des femmes. Si on ne se marie pas, en gros, on n'est pas crédible socialement, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il y a d'abord un problème avec la vision du mariage, et ça, c'est très proche de ce qui se passe en Chine, à mon avis. C'est une conception néo-confucianiste. Il faut se marier pour fonder une famille, et cette famille sera la brique dans le mur de la société, hein, si on peut employer cette image.
On ne peut pas être confucianiste et homosexuel. Je veux dire, les homosexuels nippons n'ont pas forcément le désir de se marier?
Pas forcément, non. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens sur le terrain quand j'ai fait des interviews et je suis allé dans les villages pour voir comment les gens vivaient. C'est pas du tout une de leurs revendications principales.
Il se trouve que s'il n'y a pas de mariage pour tous, d'union civile au Japon, il y a quand même des initiatives qui vont dans ce sens-là. Je pense à l'arrondissement de Shibuya, qui est un quartier assez branché de Tokyo, où on a proposé aux couples de même sexe un certificat d'union sur l'initiative de son maire qui s'appelle Ken Asebe. Et puis, il y a d'autres administrations locales qui ensuite ont suivi tout cela. En quelques mots, à quel droit ça ouvre ce genre de choses? Et est-ce que vous pensez que ça pourrait se multiplier à l'avenir?
Ça pourrait, sauf que c'est bloqué depuis quelques années. Il y a eu cet élan, et puis ça s'est arrêté. Donc maintenant, il doit y avoir 4 ou 5 entités administratives qui le font, soit des arrondissements de Tokyo, soit des villes. Mais ça s'est arrêté tout d'un coup, il n'y a plus de progression, ça n'a pas pris en fait, c'est un feu qui n'a pas pris. Et alors, pour répondre à la première partie de votre question, ça n'a aucune valeur légale. Alors, les droits qu'ils ont, c'est quand même assez important, parce que, par exemple, ils peuvent acheter un logement ensemble. Il y a une chose qui est assez importante, c'est que quand quelqu'un est blessé ou malade, seul un membre de la famille peut monter dans l'ambulance et peut aller à l'hôpital et prendre des décisions. Or, dans ces villes-là, où le partenariat est reconnu, le partenaire peut le faire. Donc ça, c'est quand même un droit qui est assez important.
Oui. C'est une vraie avancée, parce que ce que vous venez de décrire là à l'instant, c'est un exemple typique de ce à quoi peut ressembler l'homophobie au Japon. Parce que quand on parle d'homophobie, on ne parle pas de la même chose quand on est aux États-Unis, en Europe ou encore au Japon. Peut-être que d'ailleurs, en quelques mots, vous pourriez nous dire les formes de violence, justement, qu'on trouve derrière. L'homophobie au Japon, c'est quoi?
D'abord, la racine de l'homophobie au Japon, elle n'est pas religieuse. Ça, c'est quand même très important. Elle n'est pas fondée religieusement. Donc, elle est, je dirais, moins forte, moins extrémiste qu'en Europe. Et par exemple, il n'y a pratiquement pas de violence physique. Alors, tout se passe en catimini, par derrière, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas les droits auxquels ils peuvent prétendre, ou bien on ne fera pas circuler l'information, ou alors dans une entreprise, quand ça se saura, on sera licencié sous d'autres prétextes, ou alors on n'aura pas la promotion que l'on mérite, enfin ce genre de choses.
Il y a une discrimination rampante qui ne dit pas véritablement son nom. Encore peut-être 2 questions. La première, purement politique. Est-ce qu'il existe des différences très nettes entre le Parti libéral-démocrate, le centre-droit conservateur, le Jiminto, et puis le Parti démocrate du Japon, le PDJ, qui est le principal parti d'opposition, plutôt de centre-gauche, sur les questions LGBT, ou est-ce que finalement, c'est pas vraiment un sujet politique, c'est d'abord et avant tout un sujet sociétal, et que d'une certaine manière, les politiques n'ont pas grand-chose à dire sur ce thème-là?
À mon avis, il y a une différence, et elle n'est pas nette, mais elle vient plutôt du fait, je dirais, des femmes. Dans un parti où il y a plus de femmes, et c'est le cas parce que au Chimito, il y a pratiquement pas de femmes, et elles sont du genre Thatcher, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a plus de femmes, elles sont plus ouvertes à ce genre de choses, et il y a deux lesbiennes dans les partis de gauche qui sont dans l'opposition, et qui essayent de faire bouger les choses.
Toute dernière question, Karmi Shirakawa. Le Japon vient de changer d'air avec l'arrivée du nouvel empereur. Le pays a quitté l'ère Heisei, qui veut dire l'ère de l'accomplissement de la paix. C'était qu'on avait ouvert au début 1989 pour entrer maintenant dans l'ère Reiwa, qu'on pourrait traduire par l'ère de la belle harmonie. Est-ce qu'il y a des choses à en attendre s'agissant des questions LGBT ou est-ce que je suis totalement à côté de la plaque? Parce que si j'ai bien compris les choses... Par le passé, il y a eu peut-être une plus grande tolérance sur ces questions-là. On dit par exemple que durant l'ère Meiji, qui a commencé en 1868 et qui s'est achevée en 1972, il y avait une très grande tolérance sur les questions d'homosexualité. C'est le cas ?
Oui, pas très grande tolérance, mais c'était beaucoup plus libre. La sexualité n'était pas moralisée, médicalisée, légalisée. En fait, l'époque Meiji a apporté beaucoup de choses très favorables, très positives au Japon, notamment sur le point de vue technique, sur le point de vue de législation qui est apportée de France. Mais ce dont on parle peu, c'est que sur le problème de la sexualité et de l'évolution du regard porté vers les minorités sexuelles, l'ère qui était avant Meiji, donc l'ère d'Edo, était beaucoup plus libre. Ça, c'est clair que l'Occident a apporté... Au 19e siècle, bon, c'était vraiment les valeurs judéo-chrétiennes, sans dire leur nom, elles sont entrées au Japon parce que le Japon voulait devenir une nation moderne, et sans savoir que c'était un a priori religieux, sans savoir que c'était des valeurs religieuses, ils ont pris tout, parce que c'était un pack en fait, ils n'ont pas fait les différences, et malheureusement, pour les minorités sexuelles, c'est devenu quelque chose d'immoral, qu'il fallait médicaliser et légaliser, et tout vient de là, et en fait, le problème c'est que les Japonais actuels ne sont pas tellement conscients de ça, ils ne sont pas conscients qu'il existait une époque pas si lointaine, où c'était beaucoup plus libre que maintenant, on pourrait essayer de revenir à un état pré-meijien en fait, à l'époque d'Edo, concernant ces choses-là, ce serait vraiment un grand pas en avant. Mais il faut d'abord en prendre conscience, évidemment.
Et je dis la fin d'Ère Meiji 1972, pas du tout, c'est 1912. Merci beaucoup, en tout cas, Karmi Shirakawa, d'avoir été avec nous ce matin. Depuis Tokyo, je rappelle que vous êtes chercheur, ethnologue, expatrié au Japon depuis une trentaine d'années, et puis auteur de cet ouvrage, Les chrysanthèmes roses, homosexualité masculine dans le Japon contemporain, qui était paru aux Belles Lettres en 2011, signé sous le nom Éric Laurent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Grand merci à nos deux invités, Constantinos Eleftheriadis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sociologie et études des genres à Sciences Po Paris et membre du laboratoire, le centre d'études des mouvements sociaux de l'EHESS. Un grand merci également à Charlotte Thomas Hébert d'avoir été avec nous en duplex de La Rochelle. Je rappelle que vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du CESP, le Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques. Et je remercie également les techniciens qui sont à vos côtés à La Rochelle et qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Voilà, c'est sur ce morceau qui fait partie de la bande originale du film Stonewall de Nigel Finch, sorti en 1995 et consacré justement aux semaines qui ont suivi l'événement de Stonewall dont on a beaucoup parlé ce matin. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Et bonjour Florian.
Et vous nous emmenez en Pologne ce matin, puisque la Pologne vient de fêter le 15e anniversaire de son adhésion à l'Union européenne.
Oui, en 2004, le pays retournait en Europe, un espace culturel auquel son peuple avait le sentiment d'avoir été injustement arraché par l'occupation soviétique du pays, succédant à presque 6 années de terrible occupation nazie. Le 18 juin, elle célébrera aussi le 30e anniversaire des premières élections libres, celles qui lui ont permis de se débarrasser de la dictature communiste. On aime beaucoup les célébrations, en Pologne. Alors on l'a beaucoup dit sur place, le temps est venu de faire un bilan d'étape pour les deux parties. Certes, cette adhésion a métamorphosé la Pologne, mais le pays a aussi exercé une réelle influence au sein des instances européennes. Alors un livre qui sort aujourd'hui aux éditions Noir sur Blanc, qui s'appelle « Hurrah et désarroi », sous-titré « Scène d'une guerre culturelle en Pologne », offre un kaléidoscope d'images inattendues de la Pologne actuelle. On y découvre en particulier un portrait politico-culturel du pays qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on croyait en avoir compris à l'Ouest. Le vrai déclic, celui qui répartit les rôles dans l'espèce de guerre culturelle qui se joue là-bas, c'est l'accident de l'avion présidentiel emportant 95 personnalités, chefs d'état-major, ministres, cardinaux, etc., sur l'aéroport de Smolensk en Russie. Par un tragique concours de circonstances, toutes ces personnalités se rendaient à une cérémonie commémorant l'assassinat par le KGB sur ordre de Staline des officiers polonais faits prisonniers en septembre 1939, alors qu'ils refluaient devant l'offensive allemande lancée contre leur pays. Le massacre de Katyn a longtemps été attribué par les soviétiques aux nazis avec la complicité des alliés. La vérité aujourd'hui est bien connue grâce à Boris Yeltsin. Voir d'ailleurs à ce sujet le film remarquable d'Andrzej Wajda tourné sur cet épisode marquant de l'histoire polonaise. Alors cet accident de Smolensk, manifestement dû aux conditions météorologiques et à l'impatience du président Lech Kaczynski, fut immédiatement interprété par une partie de la population comme le résultat d'un attentat provoqué par Poutine. Comme l'écrit Dariusz Kozinski, la catastrophe de Smolensk a réactualisé sous forme théâtrale les modèles historiques qui structuraient l'imaginaire polonais. Tout à coup, ont ressurgi les mythes romantiques, celui de la Pologne martyre vouée au sacrifice, aux actes sacrificiels plutôt destinés à réveiller l'Europe. Alors même que depuis le recouvrement de la souveraineté en 1989, le pays semblait avoir renoué avec la tradition concurrente, celle du positivisme.
Mais Brice, vous parlez de romantisme, de positivisme. Est-ce que ces mots ont le même sens en Pologne que chez nous ?
Eh bien, pas vraiment. Mais il est essentiel de comprendre le sens qu'ils ont sur place si l'on veut réaliser ce qui est en jeu en ce moment en Pologne. Le romantisme polonais, qui triomphe en littérature avec des drames dans la première moitié du XIXe siècle avec Mickiewicz ou Słowacki, appelle aux insurrections contre les puissances qui s'étaient partagées la Pologne à l'époque. Il est sans grande illusion sur la possibilité d'obtenir une issue victorieuse, il s'agit seulement de témoigner. Les défaites sont héroïques. Les positivistes, à partir du milieu du XIXe siècle, vont tirer de l'échec à répétition de ces insurrections contre la Russie la conclusion qu'il faut renoncer provisoirement à l'indépendance de la nation, mais se livrer au travail organique. Éduquer les masses, construire des infrastructures, moderniser le pays. Ils influencent les romanciers polonais de la fin du siècle comme Jeromski, Władysław Reymont ou Bolesław Prusse. Toute l'histoire de la Pologne est marquée par la succession de moments romantiques et de moments positivistes. Et bien cela a été le cas également depuis 30 ans. Les premiers gouvernements libéraux qui se sont succédés à Varsovie après 89 étaient dominés par des pragmatiques pro-européens, décidés à mettre les bouchées doubles pour atteindre le niveau de vie de l'Occident prospère. Des espèces de positivistes. Et ils n'ont pas pris garde au coût social de leur politique. Tout le monde ne pouvait pas devenir entrepreneur et contribuer à l'enrichissement du pays comme le réclamaient les libéraux. La catastrophe de Smolensk a réveillé le camp des romantiques, nationalistes, critiques envers une Europe de l'Ouest considérée comme décadente et oublieuse de son propre passé chrétien. Le parti Droit et Justice au pouvoir, dont le chef Jarosław Kaczynski est le frère jumeau du président disparu à Smolensk, a fédéré tous les déçus et les laissés pour compte de la libéralisation. C'est un parti de droite, mais chrétien et social. Dans ce livre dont je parlais, « Hurrah et désarroi », Kaya Puto nous met en garde. Il ne faut pas se représenter cette guerre culturelle des deux Pologne, ainsi qu'on le fait souvent à l'Ouest, comme un conflit entre le pays des vieux et des villages et celui des jeunes et des grandes villes. Beaucoup de jeunes sont conservateurs et on a vu surtout bien des soixantenaires descendre dans la rue avec les libéraux pour défendre l'indépendance de la justice.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.